those who really love you. Walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. When they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La confusion des hommes. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Marie, seule chez lui dans son bureau, pense
« Je connais enfin leur vrai visage, derrière leurs airs réservés, ce qu'ils ont, derrière leur masque. Ma femme et mon fils ne veulent guère mieux que moi. »
Le temps passe. Camille et Henri sont dans le salon. Il lui dit « Je vous demande de m'épouser. C'est que je vous aime. Je veux votre bonheur. Vous serez libre. » Elle lui dit « Je vous remercie. Je suis très touchée, mais le mariage n'est pas fait pour moi. Vous n'y pouvez rien. Je me sens incapable de vivre une vie de famille. Qu'est-ce que vous en savez ? Je le sens. J'ai envie d'autre chose. Mais de quoi ? D'aider les gens, d'écrire, de méditer, d'être libre. Mais en m'épousant, je vous promets que vous le saurez. Non, mon pauvre Henri, je serai votre compagne. » De Gerlars, il lui dit, « Bien, je vois que je ne peux pas vous faire changer d'avis. Je vous quitte. » Il se lève. Elle lui dit, « Je suis vraiment navré pour vous. Pas tant que ça, puisque vous me refusez. » Tâchez de me comprendre. Elle se lève pour l'accompagner. Il est parti tristement. Hubert n'a plus de nouvelles de son fils, et sa femme ne s'en occupe pas, envoie de temps en temps un chèque à tant que l'or, et c'est tout. Pour ce qui est de la mort d'Émilie, il n'a pas été inquiété. Le père, pour se détendre, passe souvent ses soirées dans les maisons closes. Il boit beaucoup, joue aux cartes, en dépensant beaucoup. Il fait tout sans aucune retenue, traite les filles comme des objets faits pour ses caprices, les bat, leur pisse dessus, les insulte, les fouette jusqu'au sang, leur brûle au cigare, dans les endroits sensibles, même à l'intérieur de leur chatte. Leur vomit dessus. C'est un monstre, mais un monstre qui paye. Camille a sa vie à elle. Elle est devenue bigote parce qu'un prêtre a bien parlé de charité et des femmes qui souffrent car elles sont traitées comme des êtres inférieurs appartenant à leur mari. Il a dit que Dieu avait mis les femmes égales de l'homme. Depuis ce prêche, elle va tous les jours à la messe. Elle est restée jolie et les hommes la regardent passer. Elle le sait et cela la dégoûte. Elle n'aime plus les hommes, surtout depuis qu'elle voit son père rentrer au petit matin, ivre mort, et qu'elle a entendu certaines choses sur lui. Elle lui en veut aussi d'avoir éloigné sa mère. Elle ne sait pourquoi il l'a fait, mais elle se dit qu'il se comporte avec elle comme un despote. Un jour, à la messe, un jeune homme bien de sa personne qui va à la messe tous les jours pour elle. Il essaye de lui parler en lui disant bonjour à la sortie de l'église. Elle s'écrie : Laissez-moi tranquille. Ne peut-on pas laisser les femmes tranquilles à chaque fois qu'elles sont dehors ? Doit-elle être accostée ? Sa fille ! Elle part en courant, laissant l'homme abruti. Un matin, qu'elle revient de la messe, elle trouve son père dans le hall et lui dit
« Qu'est-ce que tu as à aller à la messe ? C'est des histoires d'hommes que d'aller à la messe. Tu as laissé les hommes libres et n'aime pas le chi. Il aime voir les hommes sans masque. Il faut prendre la vie comme elle est et accepter ce qu'elle est, ce qu'elle nous donne. »
La fille hausse les épaules. Elle voit qu'Étienne a pris à peine debout et lui dit « Un jour, on vous fera payer ce que vous dites. L'homme a une âme. Il doit dominer ses instincts pour ne pas être une bête. Un jour, la justice divine tombera sur vous. » Le père hausse ses épaules lui dit « Je m'en moque. » Et il va dans son bureau. Dans un quartier populaire, aux rues étroites et sales, aux maisons de l'après, au fond d'une cour d'une de ces maisons, Yann Bicop passe presque un trou à rats. C'est là que vit, allongé sur un grabat, Guillaume. Il est sale, maigre, osseux. Un nécessaire à opium au pied de son lit. C'est une loque. Tremblant, voilà pleurant, son opium. Parce que c'est, à côté de lui, un gamin de 14 ans, maigre, cheveux clairs, sale. Il est habillé de loques, comme Guillaume. Guillaume, une nuit, l'a rencontré dans le ruisseau. Il traînait dans les rues depuis des mois et des mois, mendiant son pain, volant un peu. Un jour, il a rencontré Guillaume, qui était à demi évanoui dans le ruisseau, et il l'a porté jusqu'à cette cabane et l'a soigné à sa façon. C'est pris d'amitié pour cet adulte, aussi démuni que lui, même plus puisque Dubôme ne savait pas se débrouiller seul. Alors, il a décidé de vivre avec lui. Guillaume laisse faire. L'enfant lui porte à manger. Il lui a trouvé même de l'opium qui vole à un Chinois. Il n'y a presque pas de paroles entre eux, mais se comprennent. Ils se disent tous deux, nous sommes des déshérités, il y a connu et les autres. Quelquefois, le soir, l'enfant accepte certaines caresses. Se sent prisonnière dans sa chambre assise au coin du feu, rêve de s'envoler comme un oiseau loin de cette cage. On a frappé à la porte. La tante. Armande ne regarde même plus qui vient, car elle sait. La tante lui demande, est-ce que vous voulez descendre manger?
Non, j'ai pas faim.
Que vous voudrez, ma fille? Et ne croyez pas que cela me gênerait, que vous vous laissiez mourir de faim. Votre mari m'a dit de vous garder, mais il ne m'a pas dit combien de temps cela allait durer. Plus vite cela sera fini, mieux ça voudra. Vous désirez quelque chose?
Oui, sortir un peu dans le parc.
Il pleut. Je ne peux pas que vous vous mouliez. Et je ne peux pas me mouiller pour vous.
Je ne vous demande pas de sortir.
Il le faut pour vous surveiller.
Ne craignez rien. J'ai justement l'intention de partir. Je suis trop bien ici. Et où irais-je? Il n'y a que des bois à perte de vue.
Qui sait? Et puis, on ne sait pas ce que vous avez dans la tête. On se méfie après ce que vous avez fait.
Ce que j'ai fait ne vous regarde pas.
Ah, vous avez déshonoré la famille et volé nos bijoux.
Ils étaient à moi. Hubert me les avait offerts.
Vous en étiez dépositaire. Ce qui est à la famille, reste à la famille. La tante va fermer les volets de la chambre. Car c'est le soir.
Me détester?
Je ne vous aime pas. J'ai tout de suite compris que vous n'étiez pas franche.
La tante s'approche d'Armande.
Vous ne désirez rien?
Non.
Alors, bonne nuit.
Et elle sort de la chambre. Armande reste assise à regarder le feu dans la cheminée.
le père, un après-midi, pour entrer chez lui, prend une rue populaire. Il voit une toute jeune fille, blonde, mince, grande. Elle a un comportement enfant qui le touche. Elle est habillée simplement mais proprement. Ses cheveux sont bien peignés en chignon. Il la suit et aimerait bien l'aborder. Il aime sa façon de marcher, ses petites mains qui sont restées encore blanches et lisses, qui touchent constamment ses cheveux. Il se dit,
il faut absolument que je fasse connaissance de ce petit ange. Ça me changerait de ces putains.
Elle entre dans une petite boutique de lingerie pour femmes. Il regarde la vitrine et ne voit que de la lingerie féminine. Il entre dans le magasin. Elle est à la banque.
Vous désirez, monsieur ?
Il hésite puis dit.
Ma femme m'a dit de lui acheter des rubans pour son chapeau.
Quel genre de ruban, monsieur ?
Je ne sais pas. Montrez-moi.
Elle va dessous la banquette, prend un plateau en bois avec des échantillons de rubans.
Voilà, monsieur.
Il les regarde.
Ce n'est pas facile. Le magasin vous appartient ?
Non, monsieur. Mais monsieur aimerait peut-être être servi par la patronne. Il ne reviendra que dans une demi-heure.
Non, pas du tout. Vous êtes très bien. Alors comme ça, vous êtes vendeuse ?
Oui, monsieur.
C'est bien ça. Vous vivez chez vos parents.
Elle hésite et dit « Oui, et ils sont très sévères, et moi je suis très sérieuse. Je veux me marier. Vous avez fait votre choix, monsieur ?»«
Je ne sais. On peut revenir les échanger. »«
Oui. »«
Mettez-moi ces deux comme ceci. »
Elle les met dans un papier. Je lui donne.
Cela fait cette somme, monsieur.
Il la paie. Et lui dit.
Au revoir, mademoiselle. Vous êtes charmante. Je reviendrai.
Et il quitte le magasin.
Il est fou d'amour et est prêt à toutes les folies.
Le lendemain, il revient avec son paquet de rubans et un petit bouquet de violettes.
Je suis venu pour échanger les rubans. Ça ne convenait pas.
La jeune fille lui sort le plateau.
Et je vous en peux apporter cela.
Il lui tend les violettes.
Monsieur, c'est gentil de votre part, mais il ne faut pas. Je tiens à être sérieuse. Et puis ces fleurs, c'est pour votre femme, j'en suis sûr.
Je vous ai menti. Je n'ai pas de femme. Je suis célibataire, sérieux, avec une petite rente. Vous allez, voyez, rien de plus sérieux.
Elle rougit et lui dit.
C'est gentil de votre part, mais pour moi, vous êtes un inconnu. Et puis, je suis encore trop jeune pour le mariage.
Je comprends, mais je saurai attendre.
Est entré dans la boutique un petit garçon d'une dizaine d'années, blond, maigre, habillé en marine comme un lycéen. En entrant, elle a quitté sa casquette. La jeune fille dit
« C'est mon petit frère. Je m'occupe de lui souvent, car ma mère a beaucoup à faire à la boutique. Mon père est mort. »
Hubert fait « Ah !» Il est heureux d'apprendre tout ça en quelques secondes. La fille s'approche de son frère
et lui demande « Que veux-tu, Boubou ?»«
J'ai le bouton de ma veste, il tient plus.
Donne-moi ta veste. » C'est ce que fait l'enfant. Elle dit, « Excusez-moi, monsieur, vous avez choisi pour le ruban ?» Il lui dit,
« Je reviendrai. »
Et il part. Les violettes sont restées sur la banquette. Hubert est heureux. Il a l'impression d'avoir retrouvé ses 20 ans. La fraîcheur, la simplicité de cette jeune fille. Dans la rue, il lui semble courir, sauter. Arrivé vers son hôtel, la grosse bâtisse, les pièces d'apparat, sa fille qui voit de plus en plus comme une vieille fille sèche, laide, revêche, lui donne la nausée. Il soupire et dit qu'autour de lui, il n'y a aucune fraîcheur, rien. Tourne chez la jeune fille.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour monsieur. Il s'approche d'elle et lui dit,
j'aime votre compagnie.
Merci.
Vous êtes si fraîche, gentille, douce.
Vous me faites trop de compliments. Elle range des cartons.
Je peux vous aider?
Non, surtout pas, monsieur. Ma mère risque de venir à l'improviste et je me ferai gronder.
Elle est sévère, votre mère?
Non, monsieur, mais elle tient à ce que je me tienne bien.
Elle a raison, votre mère.
Mais je me tiens bien. Je suis très sérieuse, pieuse, vais à la messe et aimerais fonder une famille devant Dieu.
Voilà de bonnes choses.
Elle a fini de ranger ses cartons et retourne à la banque. Vous désirez, monsieur?
Rien. Je suis juste venu vous voir.
Est entrée une femme maigre, grande, les cheveux châtains et habillée d'une robe noire. Elle voit Hubert. Monsieur, l'on vous sert? Hubert comprend que c'est la mère.
J'ai demandé à mademoiselle des rubans.
La jeune fille sort son plateau. Il en prend un rose.
Voilà, je crois que celui-ci fera l'affaire.
Bien, monsieur. Elle le met dans un papier. Lui dit le prix. Paie et il sort. Dehors, il repense à ce que lui a dit la jeune fille. Ce qui l'irrite chez sa fille, l'émerveille chez l'autre. La religion, une vie pure, simple. Arrivé chez lui, il est irrité, agacé. Non, ce monde n'est plus le sien. Il veut changer de vie. Décide de louer un petit appartement dans la rue de la jeune fille. Il se voit menant une vie simple et tranquille. Marié, qui sait, puisque la fille le désire. Sa femme n'est pas immortelle. Et puis avec ce que lui fait subir tante Laure, peut-être que dans 1 an, 6 mois, pourra-t-il avoir sa petite femme. Il aidera à la boutique et vivra des jours heureux. Ah.
des jours heureux comme ça. Dans l'après-midi, il va voir les concierges des immeubles de la rue pour louer un petit appartement. La rue est populaire et ce sera sûrement pas le grand luxe, mais il saura s'en contenter. Un concierge, petit, maigre et chauve, lui montre, dans un immeuble vétuste, un petit trois pièces. Est dans un état lamentable. Il faudra refaire et aux frais du locataire. Il accepte. Va chez le propriétaire pour signer le bail. C'est un fripier juif. Une fois qu'il a signé le bail, il court à la boutique de la jeune fille.
Je suis votre voisin. Je viens de louer deux maisons plus loin.
Vous cherchez un appartement ?
Non, je voulais me rapprocher de vous.
Elle rougit. Il le voit et lui dit
« Cela vous ennuie ?»«
Que vous habitiez le quartier, cela vous regarde. Mais si c'est pour moi, il vaut mieux ne pas faire de folie pour moi. Cela m'ennuierait beaucoup. »«
Mais je vous promets que je ne vous gênerai pas. »«
Merci. Je crois qu'il vaut mieux que vous ne veniez plus. L'on risquerait de jaser. Et puis, vous habitez maintenant le quartier. » Se sent gêné.
Je ne tiens pas à vous nuire, mademoiselle. Je veux simplement, au début, que nous devenions amis. Moi, je m'appelle Hubert d'Argenteuil. Et vous ?
Elle rougit et lui dit :
Vous pouvez me le dire. Ce nom, ce n'est pas un secret.
Il lui sourit. Elle lui dit et lui dit encore :
Je suis franc en vol. En voulant votre amitié, je vis seul, n'ai pas d'amis. J'ai eu beaucoup de malheurs. Ma mère est morte, des ennuis d'argent, les guerres. J'ai besoin de calme et d'un sourire aimable, amical, d'une charmante jeune fille. J'ai jamais eu de chance. J'ai jamais eu de chance dans ma vie. Je ne demande qu'un peu de repos, de l'affection des gens gentils. Alors, votre nom ?
Elle lui sourit timidement. Claire Darmon. Il sourit et lui dit :
Vous vouliez me cacher un si joli nom ? Claire. Il est clair comme vous. Sonne bien avec vous. C'est le prénom d'une héroïne de conte de fées.
Elle sourit. Il se dit :
Nous voilà amis. J'ai gagné la première partie. La première partie.
Les jours passent. Hubert a fait un petit déménagement, mais officiellement il habite toujours dans son hôtel et fait souvent l'aller-retour. Sa fille ne sait pas qu'il a une double vie. Tous les jours, il va à la boutique dire un petit bonjour à Claire. Elle s'est prise de sympathie pour Hubert. Elle le trouve brave homme et avec qui l'on peut parler. Un jour qu'il se trouve à la boutique avec Claire. Est entré un fournisseur. C'est un homme grand, fort, le visage autoritaire, habillé d'une redingote noire, d'un chapeau, et porte à la main une serviette en cuir, vert bouteille. Il quitte son chapeau et dit :
Mademoiselle, j'aimerais parler à la propriétaire de cette boutique.
Je suis sa fille. Elle est absente. C'est à quel sujet, monsieur ?
Je suis huissier de justice. Vous avez des factures impayées et si vous ne payez pas, je serai obligé de vendre vos biens.
Ma mère est absente.
Bien. Je vais attendre son retour et si elle tarde trop, nous aviserons.
Je vais la chercher, monsieur, et aller voir une amie malade qui habite le quartier. » Et Claire sort du magasin. Hubert reste seul avec l'huissier. Il s'approche de l'homme et lui demande
« On vous doit combien ?»«
Mais monsieur, qui êtes-vous ? » ?»«
Je suis Hubert d'Argenteuil, de la Banque des dépôts industriels, l'ami de ces dames. »
L'huissier est surpris et ne sait comment se comporter. Il se contente de dire
« Ah, oui, vous me dites combien elles vous doivent ?» Je vous fais un chèque que vous irez retirer à la banque. Mais attention, je ne veux pas que ces dames sachent qui je suis.
Je suis discret, monsieur le comte. Lucie a tout compris et se dit, en voilà un qui cherche à séduire la petite. Il ouvre sa serviette. Et donne à lire à Hubert.
Bien, je vous fais le chèque.
Prend le chéquier de sa poche de son manteau, le porte-plume qui est sur la banque et s'exécute. Les deux femmes sont arrivées. Elles voient les deux hommes penchés et Hubert qui fait un chèque et le tend à huissier. La mère de Claire s'approche et demande « Que se passe-t-il ? » L'huissier lui dit en rangeant le chèque dans sa serviette. Rien, madame. Tout est réglé grâce à monsieur. Au plaisir. Et il sort de la boutique. Claire et sa mère entourent Hubert. La mère, confuse.
Pourquoi avez-vous fait ça, monsieur ? Je suis confuse. Vous n'auriez pas dû. La somme était grosse. Et j'aurai beaucoup de temps pour vous rembourser. Elle risque de vous manquer.
Ne vous faites pas de soucis. J'ai des petites économies. Je vis seul. Cela ne me gêne pas du tout. Je dépense très peu. Ne vous pressez pas pour me rembourser.
Je sais comment vous remercier, monsieur.
En restant tout simplement bons amis.
Claire, qui est éblouie par ce geste, lui dit
« Oh oui !» Vous êtes notre ami, notre bon ange. Maman, nous pourrions l'inviter ce soir à dîner. La mère dit, vous voulez bien, monsieur?
J'accepte avec joie.
Les jours passent. Il est définitivement introduit chez ses femmes. Il va les voir tous les jours. Les aide même à ranger les arrivages. Les conseils pour attirer la clientèle. De temps en temps, le soir, il leur propose une sortie, écouter un concert, voir une pièce ou un opéra. La plupart du temps, la mère laisse sa fille y aller seule, car elle s'est rendue compte que Hubert a un penchant pour sa fille et cela ne lui déplaît pas, qu'il soit marié un jour. La mère a demandé à l'huissier combien Hubert avait donné et elle lui rembourse chaque mois une partie qu'Hubert lui redonne en cadeaux plus coûteux, fleurs, bonbons, places de spectacle. Elle n'est pas dupe, mais se dit que s'il devient son gendre, les dépenses et le prêt auraient été pour la famille. Claire a de l'amitié pour lui, mais c'est tout. Il lui a jamais venu à l'idée qu'il pourrait l'aimer. Il est un pot pour elle comme un vieil oncle. Hubert se ronge les sangs. Il voit que les choses n'avancent pas. Il fait les 100 pas dans sa chambre et se demande combien de temps cela va durer. Car cette double vie le fatigue beaucoup. Il est toujours en train de courir d'un endroit à l'autre
et à cause de dépenses et futures dépenses, il est obligé de travailler double, passe le double de son temps à la banque, mais en y allant le matin, car l'après-midi et le soir, c'est pour Claire. Donc, il commence très tôt le matin dans son bureau pour pouvoir, le reste de la matinée, recevoir les clients. Cette course incessante le mine, devient aigri, boit en cachette des deux femmes. Par contre, il passe ses nerfs sur sa fille. Un matin, avant qu'il ne parte, elle se met entre lui et la porte. Elle est en chemise de nuit, il lui dit
« Père, je ne sais pas ce qui se passe, mais je trouve que vous avez beaucoup changé. Vous avez vieilli, êtes devenu irascible pour en rien, et vous partez à des heures impossibles au bureau. On ne vous voit plus à la maison, vous ne faites qu'aller venir. Que se passe-t-il ? » ?»«
Rien, je vais très bien, mais les affaires ?»«
Les affaires vont-elles mal ? Vous semblez anxieux. » «
Non, tout va bien. » «
Alors pourquoi buvez-vous ? » «
Je ne bois pas, moi. Tu te fais des idées, ma fille. »
Et il se sauve honteux.
L'huissier
est entré dans son bureau et lui annonce
« Monsieur le duc d'Alembert désirait avoir un entretien avec vous.
Il est dans l'antichambre. »
Hubert réfléchit. Ce nom lui dit quelque chose. Après avoir cherché quelques secondes, il se souvient de la molle. Rougit. Ne sait que faire.
« Je ne le reçois pas, ce sera pire. Il croira que je suis coupable. Bien, faites entrer, monsieur le duc. »
L'huissier sort. Fait rentrer un homme d'une cinquantaine d'années, grand, mince, les cheveux et les favoris gris, un regard distingué et sévère. Il porte une redingote grise et a une canne à la main. Hubert s'est levé. Le duc s'avance.
Monsieur le duc, asseyez-vous.
Et Hubert s'est rassis. Le duc regarde autour de lui. Le bureau est meublé en style Louis XV, ce qui stupéfait le duc. Puis, il regarde Hubert qui attend et dit
« Monsieur d'Argenteuil, je suis venu pour affaires. Vous savez que le gouvernement a décidé de rénover Paris, de l'agrandir, de faire de grandes avenues et de détruire certains quartiers. Pour cela, il va être obligé de racheter des terrains, des maisons aux particuliers. Il y a de quoi spéculer, gagner gros. Je connais ce genre de choses, puisque pour les chemins de fer, j'ai fort très bien réussi. Mais cette fois, j'ai envie de faire les choses en grand. J'ai besoin de capitaux. C'est pour cela que je suis venu vous voir. »
Hubert, surpris, se détend un peu. Ce n'est que pour affaires qu'il est là et lui dit
« Nous ne pouvons pas prêter de l'argent ainsi. En ce moment, le monde des affaires s'emballe et ne sait où donner de la tête. Cela ne m'étonnerait pas que ceux qui spéculent sans garantie soient surpris par de mauvaises nouvelles. »
Le duc de la main l'arrête et lui dit
« Là, j'ai toutes les garanties. Un de mes amis au gouvernement a réussi à copier le nouveau tracé de la ville de Paris, et ceci sur le bureau même du baron Hoffmann. »
Le père rougit et dit
«
Ceci me paraît difficile. La Banque des dépôts industriels est liée avec le gouvernement. »
Le duc lui dit, « Je le sais. Comme cela, l'on ne risquera pas de me dire que j'ai spéculé au détriment de l'État, puisque c'est, disons, la banque de l'État qui m'avance l'argent en le faisant, elle me blanchit de tout reproche. »
Hubert se sent irrité devant cet homme si sûr de lui et lui dit,
« Mais l'opposition risque de s'emparer de cette affaire et de mettre en accusation la Banque des dépôts industriels, ce qui risquerait de faire couler le gouvernement et la banque. L'empereur ne pourra pas faire autrement que de punir, vu les accusations si graves. Surtout que l'on commence à s'inquiéter à la cour par certaines spéculations. »
Le duc l'arrête en posant sa canne sur son bureau et lui dit,
« Si vous ne pouvez pas m'aider officiellement, faites-le d'une façon privée. »
« Et comment ?»«
En m'aidant avec vos propres deniers. »
Hubert trouve qu'il va un peu fort. Duc ou pas duc, il a envie de le jeter dehors et le dénoncer tout de suite. Il lui dit,
« Non, monsieur. »
Le duc soupire et dit,
« L'affaire est trop importante pour moi pour que j'insiste. Voyez-vous, les chemins de fer m'ont fait gagner beaucoup d'argent et perdu beaucoup aussi. À cause des élections, pour faire plaisir aux municipalités, nous avons fait mener le train jusqu'à chez eux, rails, gares et tout. Bien sûr, à perte, mais nous n'avons pu faire autrement. Dans 50 ou 100 ans, on fermera ces gares trop onéreuses et absolument pas rentables. Nous avons tous déboursé dans cette affaire, l'État, nous, les particuliers. J'ai besoin de me refaire. Paris va devenir un grand chantier qui peut me renflouer. Ensuite Lyon et les autres grandes villes. Mais pour cela, j'ai besoin de beaucoup d'argent frais. C'est vital pour moi. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de m'aider. Vous vous souvenez de Julie Duchamp? Belle fille, n'est-ce pas?
Hubert rougit. Le duc continue. Elle était très intelligente, savait mener une maison. Ses soirées étaient très réussies. Mon fils l'a aimée comme un fou. Ça se comprend. Il allait la voir souvent. Un soir, il est venu chez elle. Et arrivé sur le palier, c'était trop tard. La porte de l'appartement de la jeune femme était ouverte. Il s'est caché derrière une pente verte du palier. Il y avait un homme sortir de l'appartement en tirant une balle et fermer la porte à clé. Il a vu descendre des escaliers, plein d'un fiacre. Il a eu de la chance d'en trouver un de suite pour suivre l'homme. Il a vu jeter la malle. Elle relevait l'endroit, suivit l'homme pour savoir qui il était. Puis une fois qu'il l'ait suivi, retourné vers la malle, mais cette fois, il est venu avec un cabriolet à lui. Alors, vous comprenez que vous ne pouvez pas refuser de m'aider. Hubert soupire. Le duc continue. Vous comprenez, un témoin à charge, mon fils, et au magistrat, très influent au ministère, et je suis pair de France, même sous l'Empire sous la Comte. Il y a un silence entre les deux hommes. Hubert se dit, puisqu'il faut payer. Il dit,
entre hommes du monde, nous pouvons nous tenir et nous pouvons nous aider. Il vous faut combien?
Le duc prend un papier et une plume sur le bureau, écrit la somme, puis la lui montre.
Tout ça, remboursable comment?
Le duc sourit.
Un don pour fêter notre union. J'aurai la somme quand?
Hubert soupire.
Dans 2 jours, vous me ruinez.
Le duc sourit et dit, l'honneur et la vie n'ont pas de prix. Il se lève et dit,
au revoir, cher monsieur.
et quitte le bureau. Pour faire la somme, le père a été obligé de vendre plusieurs de ses actions. Malheureusement, 2 mois plus tard, le duc revient, et revient plusieurs fois. La fortune d'Hubert diminue à vue d'œil.
Bonjour mon ami, comment allez-vous ?
Oh, monsieur le docteur, ma jambe va beaucoup mieux, vous savez. Votre...
Guillaume, son état ne s'améliore pas. Il mange de moins en moins, et lorsqu'il mange, c'est des aliments mélangés avec de la fumée d'opium. Il lui faut de plus en plus de pipes. Il passe ses journées allongé à terre, sur un grabat dans le noir. L'enfant est toujours avec lui, et lui procure les aliments et l'opium. Guillaume allongé, le visage hagard, sale, fume. Le gosse est assis à côté de lui, qui le regarde avec de grands yeux. Guillaume lui dit
« Tu veux fumer ?»
Le gosse hausse les épaules. Guillaume se penche vers lui, le tire à lui et lui force à fumer en lui pinçant le nez. L'enfant s'est défendu, mais il n'a pu résister longtemps. D'heure après, il est ivre mort, la tête sur la poitrine de Guillaume, qui a mis sa main dans sa culotte.
Ça ne te plaît pas, boulot ?
Il l'embrasse.
Nous ne sommes que nous deux. Les autres ne nous voient pas. Il n'y a que moi qui puisse t'aimer. Que moi. Que moi.
Merci. Ah, bonjour mon ami, comment allez-vous ?
Oh, monsieur le docteur,
la cabane va être démolie. Votre promenade m'a fait du bien. Ils vont être obligés de déménager. Guillaume a mis dans une caisse le nécessaire opium et part maintenu par Boulou. Les gens qui les regardent passer pensent que c'est le fils qui ramène le père à la maison. Il a dû le trouver ivre mort dans le ruisseau. Boulou dit « J'ai trouvé un grenier ». Pourquoi cet enfant traîne-t-il cet homme avec lui, qui lui fait faire les pires choses et le traite comme un esclave ? Parce que Boulou a vécu seul sans famille, et comme tout être humain a besoin de chaleur humaine. Cet homme représente pour lui un port d'attache, un lien avec le monde des hommes. Il vaut mieux un lien qui tire et fait un peu mal, l'or. Rattache au monde des vivants que pas de lien du tout. Et puis Guillaume lui donne des responsabilités, le traite en écale, il a confiance en lui, et c'est beaucoup. Boulou croit vous sentir même dans ses gestes obscènes de la tendresse pour lui. Il emmène Guillaume dans une rue tout aussi lugubre et sale que l'autre. fait monter difficilement les 5 étages d'un immeuble abandonné, relémonia dans 6 mois. Les portes des appartements ont été condamnées, bien condamnées. Seul le grenier est accessible. Enfin, ils y sont. Guillaume trouve un matelas et s'allonge. À côté, il a mis ses instruments pour l'opium. Le gosse s'assoit à côté de lui. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Zampierre, La confusion des armes, dont c'était la 10e partie. Production, mise en scène Julien Zampierre, enregistrement CVRP.